Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservé aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Au quotidien, prenez les transports en commun.
BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Lorraine Boumeau.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre magazine week-end sur les H, la vie de bureau et le management. Ils sont libérés du Covid, mais maintenant ils doivent faire face à l'inflation et en plus aux problèmes de recrutement. Ce sont les DRH. On sera justement avec le patron des DRH, Benoît Serre, pour prendre le pouls, pour faire le bilan de la rentrée. Ensuite, on parlera du coût du désengagement des salariés. On sera avec Anthony Mollet, le fondateur de Civic Time. On va chiffrer ce désengagement. Mais on va aussi trouver des leviers à activer pour résoudre ce problème qui concerne beaucoup d'entreprises. Et puis pour conclure, on va parler des 9 millions de véhicules et d'utilitaires dans lesquels il y a des salariés qui sont donc professionnellement véhiculés. On parlera de ces gens-là, on parlera de leurs véhicules et on parlera de comment optimiser cette flotte en France, comment la verdir, comment l'emmener vers une meilleure gestion et donc vers la transition écologique. On fera ça avec David Babin, le fondateur du B1. A tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
On va parler à nos DRH, de notre DRH, avec le chef des DRH. Bonjour Benoît Serre.
Bonjour.
Je dis vous êtes le chef parce qu'évidemment vous êtes le vice-président délégué de l'ANDRH, avec nous souvent sur notre antenne. On va prendre le pouls de cette rentrée pour votre profession. Libéré du Covid, on va dire, mais maintenant coincé entre l'inflation, les problèmes de recrutement et puis voilà, ce besoin de créer quelque chose de nouveau dans les entreprises, comment ça va ?
Ça va bien, parce que c'est la rentrée des vacances, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que on sent qu'il y a une espèce de concentration de nouveaux phénomènes ou de phénomènes exceptionnels qui se croisent tous au même moment, en même temps. Vous les avez cités, vous avez l'inflation, vous avez quand même le sujet de l'énergie, vous avez quand même la guerre. Quand vous êtes une entreprise internationale comme moi, vous prenez en compte cet élément-là. Vous avez alors la sortie du Covid, mais surtout...
On rappelle que vous avez aussi la casquette, et surtout la casquette voilà. De DRH L'Oréal.
Exactement, et en même temps, vous avez aussi la sortie du Covid, je dirais presque, les premiers éléments des conséquences du Covid sur profondément le marché du travail, le rapport au travail. Donc tous ces éléments-là viennent se croiser au même moment. Donc c'est à la fois une rentrée très intéressante quand vous êtes DRH, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent en même temps. Une rentrée un petit peu tendue parce que vous avez beaucoup d'éléments d'inconnu ou d'imprévisibilité.
Est-ce que vous diriez que votre profession et vos fonctions à l'intérieur de des entreprises portent un devoir d'optimisme ?
Alors d'optimisme, oui, il n'y a pas que cette profession qui le porte, mais c'est vrai qu'on est directement au contact à la fois de la difficulté pour certains de reconstituer le collectif après quand même 3 années où ça a explosé. Et en même temps, on est confronté à des situations individuelles qui sont nature un peu différentes, des attentes fortes. Donc on doit gérer à la fois les contingences de l'activité économique, de l'imprévisibilité des marchés, de tout ce qu'on connaît. Et en même temps, une forme d'impatience des salariés de dire, bon alors quand est-ce qu'on change ? On a quand même avec tout ce qu'on a vécu, il faut changer les modes de travail, changer ceci, changer cela. Donc vous avez un petit peu une réconciliation des temps à opérer qui est pas simple. Donc on va rester optimiste, sinon on arrête quoi.
Dans les incarnations de l'impatience des salariés, il y a cette volonté de mobilité que généralement en ce moment on aime bien qualifier de grande démission. On parlerait plutôt, en tout cas vous parleriez-vous plutôt de grande mobilité ou de grande rotation ? Comment vous qualifiez ce phénomène que vous observez peut-être aussi chez L'Oréal ?
En fait, on a beaucoup parlé de grande démission en comparaison avec le système américain. Mais je pense que la comparaison n'est pas valable. Parce que le système américain... Le contrat de travail aux États-Unis, il n'emporte pas tout ce qu'emporte le contrat de travail en France. Donc, vous avez un marché du travail en France, et en Europe, de manière générale, qui est beaucoup moins fluide. En revanche, un autre élément, lui, qui est très différent par rapport aux États-Unis, c'est qu'on sait qu'à peu près 90% des gens qui ont bougé, même via la démission, en fait, ont retrouvé un autre job. Ça veut dire que vous êtes plutôt, c'est pour ça que j'ai appelé ça la grande mobilité. La question que ça pose, c'est pas tellement à ceux qui démissionnent, c'est aux entreprises qu'il faut s'interroger. Pourquoi est-ce que dès que le marché du travail va bien, une partie des gens, leur premier réflexe, c'est essayer de s'en aller de là où ils sont. C'est qu'ils sont pas forcément très bien là où ils sont. Donc ça interroge. Et puis après, vous avez quand même la logique de marché, parce qu'on s'est inversé, on est sur un marché d'employés plutôt d'employeurs. Donc la loi de l'offre et la demande fonctionne. Et donc la question de la rémunération, elle reste quand même assez centrale.
Alors on va parler un petit peu de télétravail, parce qu'on avait le sentiment, en tout cas à BFM Business, que le télétravail occupait beaucoup d'espace de cerveau disponible des dirigeants, alors qu'on n'est pas sûr que ce soit la chose la plus importante. Mais j'ai envie de vous demander, est-ce que vous croyez que les entreprises, dans les mois qui vont venir, vont continuer une organisation hybride qui a plutôt fonctionné ces derniers mois, ou est-ce que ça risque de changer?
Moi je pense qu'on ne reviendra pas en arrière sur le fait que le modèle hybride du travail s'est installé. Vous savez qu'avant la crise, la France était très en retard. Oui. Elle n'a guère fait que rattraper l'Europe du Nord, l'Allemagne ou l'Angleterre. Donc par conséquent, son modèle de travail hybride, il n'est pas révolutionnaire, mais par rapport à ce qu'on connaissait avant. Donc je pense qu'on ne viendra pas en arrière. En revanche, je reste convaincu qu'il va falloir que ça bouge plus que ça, dans la mesure où, pour deux raisons. La première, c'est que l'appétence des gens, ce n'est pas forcément le télétravail. C'est une plus grande liberté d'organisation dans mon travail, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Mmh. Et donc ça pose la question du modèle du calcul du temps de travail. Or vous savez qu'en France, le calcul du temps de travail hebdomadaire, c'est l'indicateur majeur de progrès social depuis 150 ans. Donc dès qu'on y touche, ça devient extrêmement sensible. Mais je crains qu'il va falloir y toucher. Parce que la volonté des gens, moi je vois les débats, 4 jours, 5 jours, je pense que c'est le mauvais débat. Le débat, c'est comment j'organise le travail pour redonner de la liberté dans mon organisation. Et le système historique, 9h-18h, effectivement, pour une partie des métiers en tout cas, il a fini d'exister.
On vous a sondé sur LinkedIn et on vous a demandé quel est le nombre idéal de jours de télétravail par semaine. Eh bien, pour un jour, c'est 16%, pour deux jours, c'est 57%, et pour cinq jours de télétravail, c'est presque un tiers.
Oui, alors, d'abord, les deux jours sur les 57%, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est à peu près la moyenne qu'on observe dans toutes les entreprises. Donc ça veut dire qu'il y a déjà une cohérence entre ce que souhaitent les gens et ce que font les entreprises. C'est normal, hein, parce que dès que vous franchissez les deux jours, vous changez de monde, en fait. Vous passez plus de temps chez vous. Bon. Le tiers relatif aux cinq jours de télétravail, à mon avis, il a plusieurs motivations. D'abord, il a des motivations de typologie de métier. C'est vrai que moi, je les rencontre, les gens qui sont plutôt dans la tech, ils vous disent, moi, je pourrais travailler à distance toute la journée. Bon, je leur dis attention, pour deux raisons. La première, c'est que le collectif d'une entreprise, ça existe. Et donc, quand ça n'existe plus, l'entreprise n'existe plus. La deuxième, c'est que dès lors qu'on ne voit jamais quelqu'un, il ne faudrait pas qu'on ait tendance à vouloir l'externaliser ailleurs. Donc, il faut faire attention, parce que sur un plan individuel, je comprends que les gens adorent ça. Enfin, sur un plan collectif et moyen terme, sur un plan économique, c'est un peu dangereux. Donc, je pense que deux jours, c'est la bonne moyenne. Alors, selon les cas, vous pouvez cumuler, pas cumuler. Bon, il y a pas mal de versions. Ça va s'installer doucement. Mais il va falloir surtout accepter l'idée de réorganiser les métiers différemment pour concentrer les moments collectifs où on a besoin de travailler avec les autres sur certains jours, de manière à ce que les tâches individuelles s'exercent. Parce qu'on sait que ça nuit un peu à la productivité collective, quand même.
J'ai une auditrice sur LinkedIn qui m'a écrit en me disant que pour elle, le télétravail dans le tertiaire, c'était devenu un acquis social. Est-ce que
ça oui, fait réagir? Oui, je ne sais pas si c'est un acquis social, mais par exemple, quand vous recrutez, vous avez la question de la rémunération, immédiatement derrière, vous avez la question. Et d'ailleurs, pour les entreprises, ça va poser une difficulté, parce que lorsqu'aujourd'hui, vous avez posé votre modèle de télétravail, par exemple, deux jours. Chez L'Oréal, on a deux jours de télétravail par semaine, maximum, c'est jusqu'à deux jours. Bon, vous le posez sur votre corps social, donc ça va. Mais quand vous commencez à recruter quelqu'un qui va vous dire que lui, il vient d'une entreprise ou elle vient d'une entreprise où c'était trois jours, et que donc elle a organisé sa vie comme ça, elle vous dit, moi je voudrais trois jours. Vous dites non, parce que sinon vous créez de l'inéquité. Donc c'est plutôt dans les deux, trois ans qui viennent qu'on va connaître des besoins d'adaptation. Et attention à ne pas gérer l'inéquité entre des gens qui ont trois jours, d'autres deux jours, c'est un peu compliqué.
Surtout entre les typologies de métiers, vous le disiez tout à l'heure, on sait qu'il y a plein de métiers où le télétravail, et parmi ceux qui nous écoutent et qu'on salue, il y en a qui ne sont juste pas du tout concernés.
Exactement.
Est-ce qu'il y a une nouvelle lutte des classes, ou en tout cas lutte des métiers qui s'organise?
Alors, on le redoutait un peu. Pour le moment, on ne l'observe pas. Parce que les gens sont lucides. Ils comprennent que certains métiers, vous êtes vendeur dans un magasin, télétravail, c'est pas très évident. En revanche, ça pourrait poser à terme une autre difficulté, non pas de lutte des classes, mais de fait que les métiers sans télétravail deviendraient moins attractifs, et donc ça posera des problèmes de mobilité à l'intérieur de l'entreprise. Ça veut dire qu'il va falloir s'interroger, et ça, les entreprises peuvent pas le faire seules. Elles doivent le faire avec les partenaires sociaux, elles doivent le faire sous l'impulsion des pouvoirs publics, qui pour moi n'impulsent pas grand-chose, d'ailleurs, ce sujet, il faut le reconnaître, qui est de regarder comment on va pouvoir modifier les horaires de travail, je l'évoquais tout à l'heure, l'organisation du travail, je l'évoquais aussi. Je pense qu'il y a une réflexion à avoir. Est-ce que c'est de l'annualisation? Est-ce que c'est de la semestrialisation? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on ne fera pas l'économie d'un débat sur ce sujet. Alors, je sais que le ministre du Travail, il est mobilisé sur d'autres sujets en ce moment, mais pour la structuration de la société du travail qui influe directement à la structuration de la société, il va quand même falloir se poser la question. Soit les pouvoirs publics le font, soit les syndicats s'en saisissent, mais il va falloir que quelqu'un s'en occupe.
Un autre sujet, on va peut-être conclure là-dessus, Benoît Serre, c'est sur lequel j'aimerais qu'on revienne, c'est le sujet du ghosting. Alors, pardon, oui. On parle en franglais. Est-ce que vous avez une définition française et franco-française du mot ghosting?
Le ghosting, c'est effectivement, c'est un phénomène qu'on a observé, qui est assez fort, mais moins fort qu'un autre phénomène anglais qui s'appelle le quiet quitting, où les gens disparaissent, ne travaillent plus et finalement cherchent autre chose, mais dans l'entreprise. Le ghosting, c'est que, et c'est vrai qu'on l'a observé, vous faites une proposition à quelqu'un, vous le voyez 3-4 fois, finalement, il vous répond jamais. Alors, on peut le regarder de deux manières. Soit parce que le marché est très bon, donc il a eu une autre offre et puis il est parti. Soit parce que peut-être, et je me mets dans le lot, pendant des années, les entreprises ont fait une forme de ghosting auprès des salariés qui envoyaient leur CV à qui ils répondaient jamais. Donc c'est d'une certaine manière le retour de la pièce. Bon, c'est un peu exagéré ce que je dis, mais en tout cas, c'est un phénomène qu'on observe parce que le marché est très bon et que les gens se sentent beaucoup plus libres. D'ailleurs, il est associé à un autre phénomène qui est la démission sans emploi derrière, qu'on observe aussi. Pas énormément, mais un peu.
Dans certains métiers en particulier, dans certains secteurs.
Tout ce qui est les métiers de la tech, tous les secteurs rares identifiés, c'est évident que les gens se disent, de toute façon, je peux partir. Mon risque aujourd'hui de ne pas retrouver dans un délai raisonnable de 2-3 mois, il est très faible. C'est d'ailleurs ce qui motive une partie de la volonté du gouvernement de changer l'assurance chômage. Je ne suis pas certain que ça changera fondamentalement les choses, parce que ça ne touche qu'une partie des métiers. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, comme le marché est bon, vous avez beaucoup de métiers qui sont touchés par la rareté. Et ça ne va pas durer éternellement. Donc je trouve que c'est une réforme qui est un petit peu dangereuse si elle s'appliquait uniformément à tous les métiers. Certains n'ont pas la souplesse ou la vitesse pour retrouver, parce qu'ils n'ont pas la rareté que d'autres ont.
Souplesse et vitesse aussi dans les processus de recrutement. 39% des candidats qui ghostent un employeur le font en raison d'une mauvaise expérience au moment du recrutement, dans le processus. Est-ce que vous, pour conclure, vous observez que les entreprises commencent à être un petit peu plus agiles, un peu plus courtes dans leur process de recrutement, un peu plus efficaces?
Nous, on le fait. On travaille beaucoup à ça pour justement, c'est pas forcément raccourcir, mais c'est vrai que quand vous avez un nombre d'entretiens incalculable, alors il faut sélectionner correctement, mais il ne faut pas faire ça trop lentement, il faut des réponses rapides, parce que sinon vous perdez le candidat. Donc les entreprises sont en train de se rendre compte qu'un certain nombre de leurs fondamentaux, en fait, sont plus bons. Et ça rejoint une observation qu'on peut faire, qui est que pendant des années, on a cru que l'organisation du travail était immuable, et puis avec le Covid, tout ce que vous savez, finalement, elle ne l'est pas. C'est pareil pour les process de recrutement, c'est pareil pour les process de formation, c'est pareil pour les process de développement de carrière.
8 salariés sur 10 qui ne seraient pas engagés en France. C'est un chiffre sur lequel j'aurais pu vous faire rebondir, mais sur lequel je vais faire rebondir mon invité suivant. Merci beaucoup, Benoît Serre.
Merci à vous.
Vous êtes vice-président délégué de l'ANDRH. Merci d'avoir été avec nous pour ce premier bilan de rentrée.
Avec plaisir, merci.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
On va parler de combien ça coûte un ou une salariée désengagée et on va faire ça avec Anthony Mollet. Bonjour Anthony.
Bonjour Anne.
Vous êtes le fondateur de CVTime. Avec vous, on aide les gens à être un peu plus engagés dans leur travail. Et on va prendre un chiffre pour démarrer cette discussion. 80%. 80%, c'est le nombre des salariés désengagés en France. Comment on peut expliquer ce chiffre ?
Ouais, alors aujourd'hui, il se passe... Il y a plusieurs raisons qui font le désengagement en entreprise. Et une des raisons principales, et sur laquelle nous on travaille notamment avec CVTime, c'est le manque de sens. Les collaborateurs ont besoin de retrouver du sens dans ce qu'ils font au quotidien, trouver quelque chose qui les anime, et ils ont besoin d'être alignés avec leur entreprise.
Alors, je vais prendre une définition de Gallup qui définit l'engagement d'un salarié comme son implication et son enthousiasme au travail et aussi sur le lieu du travail. Est-ce que vous observez, vous, chez CVTime, que le télétravail est venu un petit peu alimenter ce désengagement ?
Bien sûr, il y a eu un effet. C'est clair que le fait de ne plus voir ses collègues au bureau tous les jours alimente le fait qu'on se désengage et justement qu'on se désaligne de l'entreprise. Alors, c'est pour ça qu'il y a des solutions aujourd'hui digitales qui permettent de recréer du lien. Alors, ça fait pas tout, hein. Nous, même si CVTime, on développe du digital, mais on sait que le meilleur, ça reste de l'hybride. Il faut que les gens se voient quand même de temps en temps.
Alors, effectivement, une de vos pistes de solution pour pallier ce désengagement, vous, c'est le jeu, la gamification. Donc, vous l'avez dit de manière digitale. Décrivez-nous ce que vous faites pour qu'on comprenne bien.
Oui. Chez CVTime, on développe effectivement une solution gamifiée et collaborative pour engager les salariés sur la stratégie RSE de l'entreprise, donc la responsabilité sociétale des entreprises. Le constat, c'est que le désengagement, je reviens pas sur les chiffres, mais que la RSE est un levier d'attractivité, de fidélisation des talents et d'engagement extrêmement fort. Il y a un salarié sur deux qui affirme davantage choisir une entreprise pour ses engagements sociaux, sociétaux, environnementaux, plutôt que le salaire. Mmh. C'est énorme et aujourd'hui, les entreprises prennent ce sujet à bras-le-corps et se servent de la RSE pour renforcer le sentiment d'appartenance des collaborateurs. Et donc, nous, on va les aider à le faire grâce à une solution donc, collaborative et gamifiée qui va créer une dynamique collective autour de la stratégie RSE d'entreprise et donc réaligner le collaborateur et sa société.
Est-ce que, quelque part, le fait que votre solution elle soit digitale, ce n'est pas un problème ?
Non, c'est pas un problème parce que la force du digital, c'est aussi de consommer l'information comme on le souhaite. La problématique que rencontrent les entreprises en termes de communication interne, c'est justement ça. C'est le fait que les collaborateurs sont surchargés, sursollicités d'emails, de notifications, de Teams. Donc, il faut que l'information qu'on souhaite leur transmettre soit accessible au moment où ils le souhaitent. Seul le digital permet ça. Par contre, point de vigilance, effectivement, sur le fait que le digital... La gamification, c'est pas magique, ça peut pas tout faire, mais c'est un excellent levier supplémentaire.
Alors vous, ce que vous faites globalement, c'est que vous créez un univers virtuel qui vient illustrer les projets de transformation ou de responsabilité sociétale de l'entreprise. Pourquoi ? Pour que du coup, ce soit concret pour les salariés ?
C'est ça, l'idée, c'est de rendre une stratégie RSE plus tangible.
Mais donnez-nous un exemple, par exemple.
Par exemple, on va avoir des solutions où immerger les collaborateurs en équipe dans un environnement virtuel type les Sims, si certains voient les Sims, SimCity. Et en équipe, ils vont devoir ériger une merveille qui symbolise la stratégie RSE de leur entreprise. Pour faire ça, on va leur demander de compléter différents modules avec des contenus qu'on alimente, qu'on crée par des experts métiers, pour sensibiliser sur la RSE. Mmh. Donc plus... j'avance et je me sensibilise sur la RSE, plus j'ai cet objectif commun, donc cette merveille qui évolue. Et donc, je suis obligé, tout seul, je peux jouer, je peux faire évoluer ma merveille. Je vais y arriver, mais je vais aller tout doucement. Par contre, à tous, on va aller beaucoup plus loin. Et c'est ça le fond du message, en fait.
Alors, vos utilisateurs, ils font évoluer leur merveille, par exemple, sur leur temps de travail. Comment ça s'inscrit dans l'agenda d'un salarié ? Et comment, ultimement, ça se traduit en plus d'engagement ?
Alors, ça, aujourd'hui, ça s'inscrit comme une formation, comme un e-learning traditionnel, comme le temps que passerait un collaborateur à lire une newsletter de communication interne. C'est la même chose.
C'est du temps de formation.
C'est du temps d'acculturation. Mmh, mmh. On se positionne pas comme une petite formation, on est vraiment sur de l'acculturation, transmettre cette culture de l'entreprise aux collaborateurs. Et donc, derrière, l'engagement, enfin, pour nous, on a une approche de l'engagement qui est de se dire, OK, si on veut engager un collaborateur sur la stratégie RSE de son entreprise, ça passe d'abord par le sensibiliser, lui faire prendre conscience des enjeux globaux liés à la RSE auxquels l'entreprise est confrontée. Mmh. Ensuite, on va lui faire adhérer. Il faut qu'il croie dur comme fer dans la stratégie de son entreprise et donc on va susciter son adhésion et ensuite on lui implique. On lui dit, OK, maintenant que tu as compris tout ça, à toi de jouer, deviens acteur. Et c'est à partir de ce moment-là où un collaborateur qui est engagé dans la stratégie RSE de son entreprise, c'est un collaborateur qui est fier d'y être, qui va la recommander, qui va y rester.
Ça veut dire qu'on parle quand même d'entreprises qui en ont une, de stratégie RSE, qui arrivent à la verbaliser, deuxième écueil, et ça veut dire qu'on est quand même sur une typologie d'utilisateurs plutôt jeune, parce que pour avoir envie d'expérimenter une stratégie RSE de manière digitale, c'est quand même à une génération digitale native que vous vous adressez.
Eh bien, pas tant que ça. Finalement, on se rend compte que le taux de participation, le meilleur taux de participation qu'on a chez nos clients, c'est quand les moyennes d'âge sont supérieures à 45 ans. Alors, ça peut paraître... on s'y attendait pas, on n'avait pas misé là-dessus. Mais non, le jeu, ça parle à tout le monde. Le jeu digital, le jeu vidéo peut s'adresser à une population. Mais on est tous joueurs. Tout le monde va être motivé par un levier de ce qu'on appelle de gamification. Et donc, non, ça parle à tout le monde.
Alors, un salarié que vous avez réengagé matériellement, concrètement, qu'est-ce qui change pour lui ?
Ce qui va changer, c'est plus l'état d'esprit, tout simplement. C'est-à-dire que si je suis engagé dans la stratégie de mon entreprise, je suis fier d'y être. Si je suis fier, je vais la recommander, par exemple. La recommandation, pour nous, c'est un indicateur assez fort. C'est-à-dire quelqu'un qui recommande son entreprise,
surtout dans un contexte de recrutement compliqué.
Clairement, c'est pour ça que la RSE, quand on parle de levier d'attractivité et de fidélisation, on est en plein dedans. Donc ça passe par la recommandation, ça va aussi passer par des collaborateurs qui vont être moteurs dans, par exemple, pour la mise en place dans la stratégie de l'entreprise, qui vont proposer des idées, sur la stratégie RSE ou sur d'autres choses. Et c'est ça, c'est ces éléments-là, ces signaux forts, on va dire, qui vont nous permettre d'identifier le niveau d'engagement du collaborateur.
Est-ce que vous pouvez, Anthony, nous citer une ou deux entreprises vraiment où, en tant qu'outilleur de la RSE, vous vous dites cette entreprise, elle est vraiment alignée et les salariés en interne que vous avez pu rencontrer, ils sont devenus engagés?
Alors, on travaille dans tout secteur d'activité, mais on travaille beaucoup dans le secteur bancaire, on travaille beaucoup avec les différentes caisses du Crédit Agricole, par exemple. Et effectivement, c'est une entreprise qui, en termes de RSE, est très mature, enfin, en tout cas, met en place énormément de choses et, pour le coup, aligne ses collaborateurs sur cette stratégie-là. Donc, ça, c'est un des exemples que l'on peut avoir. On travaille aussi avec d'autres acteurs comme. Qu'est-ce que je peux vous citer? On a travaillé avec L'Oréal, on travaille avec le groupe Barrière, par exemple, où effectivement, il y a cet effet d'alignement des collaborateurs sur la stratégie, que ce soit RSE ou même développement durable. Hein, souvent, dans les entreprises, c'est lié, mais effectivement, on arrive à créer ça.
Voilà, et puis pour conclure, on peut quand même donner un autre chiffre que vous connaissez peut-être sans doute, c'est 15 000 euros, c'est ce que coûte une salariée désengagée à un employeur par an. Voilà, quelques leviers pour activer et pour mobiliser ces salariés, c'est ce qu'on a évoqué avec vous, Anthony Mollet, merci beaucoup. Vous êtes le fondateur de CVTime. À venir, on va parler de comment greenifier votre flotte d'entreprise. Est-ce que ça aussi, c'est pas un levier d'engagement pour tous les salariés motorisés au quotidien? À tout de suite.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Business Case.
Quel est le rôle des entreprises dans la transition énergétique, écologique des salariés? On va en parler avec un gestionnaire de flotte. Bonjour David Bavin.
Bonjour.
Vous êtes le fondateur d'UbiOne, une entreprise qui gère des flottes. Qu'est-ce qu'il y a dans vos flottes?
Alors qu'est-ce qu'une flotte déjà? C'est toute forme d'actifs en fait dans l'entreprise, qu'il s'agisse de véhicules, de machines de chantier, que l'on va chercher à rationaliser dans son usage, donc être plus efficient. Et c'est effectivement la recherche actuelle des entreprises, puisqu'on parle souvent d'efficience et diminuer notre impact en termes de consommation d'énergie.
Comment une entreprise décide d'optimiser la mobilité quotidienne de ses salariés pour s'intéresser à cette partie-là des flottes?
Alors déjà, c'est
un cheminement de pensée, vous voyez.
Le cheminement de pensée passe par, en fait, le fantasme que rien ne se passe comme prévu, rien n'est fait dans le bon sens, et que l'entreprise a besoin de savoir, parce que c'est notre rôle, c'est de révéler ce qu'il se passe réellement sur le terrain. La réalité, c'est que les travailleurs nomades, les collaborateurs nomades qui utilisent un véhicule toute la journée, qui partent le matin de leur entreprise et reviennent quelquefois que le soir, sont les télétravailleurs de l'origine. Ils étaient déjà télétravailleurs avant qu'on parle du télétravail.
On parle donc quasiment de 9 millions de véhicules pour chiffrer votre
véhicules,
marché.
De véhicules uniquement, et sur le marché national de véhicules professionnels, puisqu'on s'intéresse effectivement pour notre part qu'aux véhicules professionnels.
Alors, est-ce que vous diriez que les entreprises ces derniers temps ont plutôt été assez actives, assez volontaires dans le fait d'aider le pouvoir d'achat de leurs salariés? Parce qu'on le sait, le transport, c'est une grosse partie du pouvoir d'achat. Et matériellement, comment ça se concrétise?
Alors, c'est un sujet qui nous touche, nous, pas forcément, puisqu'on utilise le cas du véhicule professionnel, donc qui est totalement pris en charge par l'entreprise. Donc voilà, l'approche de l'entreprise va être plutôt orientée sur ses coûts en carburant, en temps passé par les salariés de l'entreprise, et à chercher à rééquilibrer aussi la forme de travail des collaborateurs. On sait qu'aujourd'hui, un collaborateur dans l'entreprise est extrêmement volatile. C'est un problème pour de nombreuses entreprises. Donc comment on amène des outils pour ramener la sérénité et surtout, en fait, finalement, ramener de la vérité dans la gestion de l'entreprise? Un collaborateur nomade se lève le matin pour travailler comme tout le monde, fait du mieux qu'il puisse son activité, rencontre des aléas comme nous tous, sauf que lui encore plus, parce qu'il y a des bouchons, des accidents, des clients en retard, etc., qui viennent perturber en fait le quotidien. Et donc on va ramener cette vérité dans l'entreprise pour lui permettre de comprendre quels sont les mécanismes qu'elle peut mettre en œuvre afin de gagner du temps, gagner de l'argent au travers du carburant et diminuer aussi globalement son impact sur l'environnement.
Concrètement, donnez-nous des exemples d'outils qui viennent rapporter la vérité que vous décrivez.
Alors, c'est l'outil principal que l'on produit chez UbiOne. Il s'appelle UbiOne Connect. Il repose sur des capteurs communicants qu'on va installer dans des véhicules. Quelquefois, on va récupérer des données venant des constructeurs de véhicules eux-mêmes. Le tout étant pour notre client, qui est un opérateur sédentaire au sein de l'entreprise, de savoir sur une cartographie où sont les véhicules, quelle est leur empreinte géographique sur une période donnée, quels sont les déplacements qui sont effectués, combien de temps on passe en mobilité, combien on passe de temps chez un client, et toute cette traçabilité est la donnée, la première donnée importante de l'entreprise pour savoir où elle doit actionner des leviers. Des exemples sont nombreux. Nos clients gagnent régulièrement 15 à 25% globalement de productivité dès lors qu'ils ont compris ce qui ne fonctionnait pas dans leur entreprise.
Exemple,
le carburant. Le carburant, typiquement, des déplacements qui sont pas adéquats par rapport à la mission de l'entreprise. Certains collaborateurs qui sont peut-être plus volontaires que d'autres vont faire des amplitudes géographiques énormes. Et donc cet équilibre n'est pas respecté vis-à-vis des autres salariés. Donc quand on rééquilibre, en fait, on rationalise, on améliore son rendement.
C'est le GPS au service de la productivité, si je reformule.
Oui, alors la productivité, c'est un vilain mot quelquefois. Donc c'est surtout pour nous de la sérénité. La productivité, elle est la conséquence de cette sérénité, puisque les collaborateurs, eux aussi, profitent de ces outils.
Quand on est dans un prisme médiatique souvent très parisien, on parle beaucoup du télétravail, on le fait malheureusement un peu trop sans doute à BFM Business. Il faut quand même mettre 2-3 chiffres sur ce que c'est tous les gens qui sont en voiture tous les jours et qui ne sont pas concernés par l'absence de mobilité. Est-ce que vous diriez que néanmoins, ces gens qui sont mobiles au quotidien, ils ont un peu changé depuis la crise Covid? Est-ce que vous observez des changements?
Alors les changements principaux qu'on observe, les plus évidents, sont liés à la volatilité des salariés. C'est-à-dire que la crise du Covid a rebattu un petit peu les cartes en termes de notion du travail et de l'effort au travail. Et donc on voit des collaborateurs qui passent d'une entreprise à l'autre beaucoup plus facilement. Après, la méthode de travail, elle n'a pas réellement changé, si ce n'est que les besoins, finalement, en termes de logistique, sont beaucoup plus importants suite à cette crise du Covid qu'ils ne l'étaient avant. On voit que les flux logistiques sont désormais beaucoup plus importants pour beaucoup de nos clients, de l'ordre souvent de plus 25 à plus 30%. Et ça, c'est révélateur, en fait, d'un nouveau mode de vie où les gens vont rester plus longtemps à domicile, ouais, et vont vouloir consommer sur leur lieu de travail. Et souvent, le lieu de travail est le lieu de domicile. On voit le développement des plateformes de livraison, notamment des repas, qui se développent grandement. Et donc, tout ça influe sur la mobilité.
Voilà, comment optimiser la mobilité quotidienne de vos salariés? Eh bien, on a essayé d'apporter quelques pistes de réponse avec David Babin. Merci beaucoup. Vous êtes le fondateur d'UbiOne. C'est la fin de Happy Boulot Le Mag. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous précise que si vous voulez, vous pouvez retrouver cette émission en replay ou en podcast sur notre site web et les applications. Si vous avez votre smartphone à la main, vous pouvez même flasher le QR code qui s'affiche. Merci beaucoup. Passez une très très bonne fin de semaine et à la semaine prochaine.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.